cycle de la conscience et la vie de Bergson. Et aujourd'hui sur notre plateau, Catherine va répondre aux questions de Belinda concernant la première ligne de fait.
Que nous montre la première ligne de fait ?
La première ligne de fait nous montre que la conscience n'est pas d'abord une question abstraite pour la pensée. Bien au contraire. La conscience, c'est ce qui se confond avec la pensée même dans une expérience vécue.
Mais de quelle expérience exactement ?
De l'expérience du temps. Être conscient, c'est éprouver le temps. Non pas en être conscient en le concevant comme le support de toute chose, mais l'éprouver dans son être. On peut dire que pour Bergson, le temps est l'épreuve même de la conscience, et cela, nous en faisons tous l'expérience.
Voici la première direction où nous nous engagerons. Qui dit esprit, dit avant tout conscience. Mais qu'est-ce que la conscience ? Vous pensez bien que je ne vais pas définir une chose aussi concrète, aussi constamment présente à l'expérience de chacun de nous. Mais sans donner de la conscience une définition qui serait moins claire qu'elle, je puis la caractériser par son trait le plus apparent. Conscience signifie d'abord mémoire. La mémoire peut manquer d'ampleur. Elle peut n'embrasser qu'une faible partie du passé. Elle peut ne retenir que ce qui vient d'arriver, mais la mémoire est là, ou bien alors la conscience n'y est pas. Une conscience qui ne conserverait rien de son passé, qui s'oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à chaque instant. Comment définir autrement les consciences ? Que Leibniz disait de la matière que c'est un esprit instantané, ne la déclarait-il pas bon gré, mal gré, insensible ? Toute conscience est donc mémoire, conservation et accumulation du passé dans le présent. Mais toute conscience est anticipation de l'avenir. Considérez la direction de votre esprit à n'importe quel moment, vous trouverez qu'il s'occupe de ce qui est, mais en vue surtout de ce qui va être. L'attention est une attente. Il n'y a pas de conscience sans une certaine attention à la vie. L'avenir est là, il nous appelle, ou plutôt, il nous tire à lui. Cette traction ininterrompue, qui nous fait avancer sur la route du temps, est cause aussi que nous agissons continuellement. Toute action est un empiètement sur l'avenir. Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience. Il n'y aurait pas pour elle de présent si le présent se réduisait à l'instant mathématique. Cet instant n'est que la limite purement théorique qui sépare le passé de l'avenir. Il peut à la rigueur être conçu, il n'est jamais perçu, quand nous croyons le surprendre, il est déjà loin de nous. Ce que nous percevons en fait, c'est une certaine épaisseur de durée qui se compose de deux parties. Notre passé immédiat et notre avenir imminent. Sur ce passé, nous sommes appuyés et sur cet avenir, nous sommes penchés. S'appuyer et se pencher ainsi est le propre d'un être conscient. Disons donc, si vous voulez, que la conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir.
Ces deux paragraphes que nous venons de lire rappellent cet aspect fondamental de la philosophie de Bergson. Être conscient, c'est éprouver le temps. On comprend alors pourquoi Bergson ne cherche pas à donner une définition abstraite de la conscience. Donner une définition spéculative de la conscience serait contradictoire avec ce qu'il vient de soutenir. Ce serait en effet dénaturer la conscience en la figeant en dehors du temps. La conscience est une chose concrète, présente à l'expérience de chacun de nous. C'est pourquoi on peut la comprendre sans théoriser, c'est-à-dire sans l'enfermer dans une conceptualisation théorique, et ainsi tomber dans une abstraction bien déconnectée de la réalité concrète.
Mais comment rendre compte précisément de cette expérience vécue ?
L'expérience du temps ne peut être celle d'un déroulement successif, comme on peut le penser à première vue. Elle n'est pas celle d'un déroulement où chaque instant abolit le précédent. Cela, c'est le temps abstrait, conçu, analysé comme une succession de moments, comme si le présent se réduisait à l'instant mathématique. Il ne faut pas confondre le temps conçu par la science et le temps vécu par la conscience, qui est le temps réel. Le temps réel, vécu par tous, celui dont nous faisons tous l'expérience, est une certaine épaisseur de durée.
Épaisseur de durée ? Comment comprendre cette expression qui apparaît curieuse ?
L'expression « épaisseur de durée » est très importante. Cette expression connote une épaisseur, c'est déjà un certain genre de matière, une certaine substance. Et en ce sens, une épaisseur n'est pas un point mathématique insaisissable, point mathématique censé indiquer l'instant. L'instant, sans épaisseur, est insaisissable.
Oui, mais concrètement, si l'épaisseur n'est pas l'instant, instant qui lui n'a pas d'épaisseur, de quoi est-elle constituée cette épaisseur de durée ?
Dans ce passage que nous venons d'entendre, cette épaisseur de durée est décrite très concrètement. C'est un temps qui s'étend, qui s'étale, qui se penche et qui se tend.
Comment cela ?
Le temps vêtu, donc, s'étire vers l'arrière. C'est la mémoire. Et vers l'avant, c'est l'anticipation, c'est-à-dire l'attention à la vie. La conscience empiète donc à la fois sur le passé et sur l'avenir. On comprend ainsi en quoi ce temps vêtu par la conscience est une épaisseur de durée. Et pour exprimer cette épaisseur de durée, Bergson utilise la métaphore du pont ou du trait d'union.
Comment comprendre ces deux métaphores ?
Le pont est ce qui relie deux rives opposées. Le trait d'union relie deux mots qui ne le sont pas d'ordinaire. Et le lien lui-même est une réalité qui n'a d'usage que dans le lien et dans les éléments qu'il relie. Le pont relie la rive droite et la rive gauche, qui ne sont plus séparés. Le trait d'union donne un sens à deux mots qui, pris isolément, n'ont pas le même sens.
Alors, que relie exactement la conscience et quelle réalité exprime-t-elle ?
La conscience est constituée du passé tout d'abord.
Mais à quoi cela lui sert-elle ? Le passé est passé. Pourquoi se préoccuper de lui ?
La conscience a son rythme dans le temps des choses. Le passé est ce qui rend la conscience attentive à ce qui survient. Si je parle, il faut bien que je me souvienne du début de la phrase pour dire ce que je veux dire et pour pouvoir espérer la terminer. Plus encore, pour former mes phrases, il faut bien que j'utilise le vocabulaire et les tournures langagières disponibles dans ma mémoire. La mémoire est très importante pour mon présent et le passé est bien constitutif de la conscience.
D'accord, mais alors que deviendrait la conscience dans le cadre de la perte de la mémoire ?
Ce sera alors précisément l'inconscience. Autrement dit, une conscience sans mémoire et par conséquent, sans avenir.
Comment cela ? Une conscience sans avenir ? Justement, une conscience sans mémoire ne serait-elle pas plutôt une conscience toute tournée sur ce qui la préoccupe au présent ou toute tournée vers l'avenir ?
Absolument pas. Une conscience sans mémoire, certes, n'est pas une inconscience totale. Ce n'est pas une absence de conscience, c'est une conscience réduite à un esprit instantané, selon l'expression de Bergson. Autrement dit, une conscience privée de toute épaisseur. Si j'ai un projet, peu importe lequel, pour le réaliser, il convient de se souvenir de quel projet il s'agit. Cela apparaît simple. N'est-ce pas cela notre expérience vêtue de la conscience ? Sans cesse, la conscience s'appuie sur le passé.
C'est ce que dit Bergson. Sur ce passé, nous sommes appuyés. Mais il ajoute, sur cet avenir, nous sommes penchés. En quoi alors l'épaisseur de durée qui est la consistance de la conscience n'est-elle pas simplement cet appui au présent du passé ? L'avenir n'étant pas encore, comment pourrait-il donner aussi de la consistance à la conscience ? Si on peut comprendre que le passé existe au présent sous forme de souvenir, il est plus difficile de voir quelle est l'existence de ce qui n'est pas encore. D'ailleurs, l'avenir au présent peut être n'importe quel possible.
Effectivement, l'avenir n'est pas. Il est ce qu'il n'est pas encore. Ce n'est qu'après coup, qu'après réalisation, qu'il sera connu.
Il aura alors perdu son statut d'avenir. Donc au présent, il n'est pas question d'avenir en fait. Simplement sous forme d'espoir ou de hantise, de possibilité.
C'est justement cela que Bergson appelle anticipation. L'anticipation est l'avenir tel qu'il prend forme dans le présent d'une conscience. La conscience anticipe, projette, espère, etc. Elle anticipe, elle se penche sur l'avenir. Il n'y a pas du tout de quelque chose d'écrit à l'avance ici, de lecture du futur tel qu'il se déroulera. La conscience projette, anticipe. En réalité, c'est donc le mouvement du temps que Bergson nous fait ici saisir. Tout se passe comme si le temps était à concevoir comme une poussée, pas du tout comme une dimension dans laquelle nous nous trouverions.
Et c'est ainsi que nous terminons cette émission pour aujourd'hui et nous poursuivons la prochaine fois. À bientôt.